Dans un premier temps, Monsieur Niemi, faux, qui va nous parler, membre du Centre de recherche sur les relations Centre de recherche sur les relations raciales. J'ai souvent l'habitude de parler de social. Marie-Ève Sylvestre, qui est professeure à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, et Francis Dupuis-Théry, qui est professeur en sciences politiques à l'UQAM. Ils ont 15 minutes chacun, et là aussi, j'espère que, par solidarité avec moi, vous allez tenir votre temps pour que j'évite d'être trop punitive.
Alors, on me demande de prendre la parole en premier. Alors, bonjour. Merci d'abord à la Ligue, au RAPSIM et au service aux collectivités de l'UQAM pour m'avoir invité, mais surtout pour avoir poursuivi une des bonnes idées de Natacha, une des nombreuses bonnes idées et beaux projets de Natacha. J'espère que nos travaux aujourd'hui, bon, qui lui rendent hommage, seront à la hauteur de ses attentes et seront, tout comme elle l'était, porteurs d'espoir et un message pour la justice sociale. Alors, parler du profilage social, en particulier dans le contexte de la lutte aux incivilités, donc Bernard a mis la table un peu ce matin à ce niveau-là, dont sont victimes notamment les personnes itinérantes, mais aussi les personnes moins bien nanties. Ces dernières années, il y a eu essentiellement deux conséquences qui ont découlé du profilage social dont faisait l'objet ces personnes-là. Donc, d'abord, leur exclusion des espaces publics. Tout à coup, on s'est mis à leur dire ce qu'il était légitime de faire dans ces espaces publics, avec qui, comment, où était légitime de se trouver aussi dans ces espaces-là. Et deuxième conséquence, parce que la façon d'arriver à les exclure et à les contrôler des espaces publics, ça a été l'émission systématique de constats d'infraction. On a eu les chiffres ce matin, on les connaît des études de Céline Bello. Parce qu'il y a eu cette émission de constats d'infraction, on a eu une pénalisation, une judiciarisation intense de ces populations-là. Donc, ces conséquences-là et les violations de droits qui en ont découlé ont été dénoncées par le milieu communautaire, la recherche, les militants pour les droits de la personne depuis déjà plusieurs années. Et à l'automne dernier, après qu'on l'ait interpellé, la Commission des droits de la personne a finalement rendu un avis en se prononçant sur la discrimination systémique et le profilage social. Et parce que c'est rare qu'en matière de profilage social, on a ce genre d'avis, j'ai pensé y revenir aujourd'hui, souligner un certain nombre d'aspects, puis essayer d'aller un peu plus loin aussi pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de ça. Donc, c'est ce que je veux faire d'abord, puis ensuite, je voudrais faire peut-être souligner quelques points de commun puis différence entre les types de profilage. Donc, d'abord, saluer, je pense, cet avis-là, dire, comme d'autres l'ont dit ce matin avant moi, que c'est un excellent avis, que c'est un appui de taille dans la lutte, et souligner quelques aspects. D'abord, l'origine du profilage. Alors, je pense qu'une chose qui était intéressante dans cet avis-là, c'est que on a dit pour une des premières fois que le profilage, c'était pas seulement le résultat de l'application de règlements ou de lois. En fait, c'était aussi le résultat de l'application du pouvoir discrétionnaire des policiers, des normes, des politiques du service de police. Alors, toute la création de la police de quartier, l'adoption d'une priorité vers la lutte aux incivilités, alors tout ça a fait en sorte qu'il y a eu du profilage. On a réorienté tout le travail des policiers. Et ça, c'est spécifique à Montréal, je dois dire, parce que dans les autres villes canadiennes, on a été un peu moins subtil. En général, on a adopté des grands règlements ou des grandes lois pour dire « nous avons l'intention d'exclure les personnes itinérantes des espaces publics ». À Montréal, on a été un petit peu plus subtil. On n'a pas adopté de telles lois. On a plutôt utilisé ce qu'on avait déjà sous la main. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on parle de solutions concrètes, c'est important de dire que ça ne sera pas suffisant de simplement changer les lois. Ce qu'il faut faire, c'est changer les pratiques, c'est changer les mentalités. Donc, si on élargit les sources du profilage, ben on élargit aussi les possibilités d'action, les possibilités de solutions. Et donc, je pense qu'il faut souligner ce point-là dans le rapport. Puis, l'autre chose qui est importante, et je pense qu'on peut aller encore plus loin en forçant les pouvoirs publics, notamment la police, mais aussi les poursuites sur le plan juridique, à expliquer pourquoi est-ce que on a utilisé la répression sur ces populations-là. Alors, on leur demande jamais de se justifier par rapport aux décisions qu'ils prennent, et je pense qu'ils devraient avoir à rendre des comptes sur la raison pour laquelle ils ont décidé de passer par le judiciaire, qu'ils ont décidé de contrôler de façon répressive ces populations-là. Alors, je pense qu'ils devraient rendre des comptes à ce niveau-là. Deuxième élément de l'avis sur lequel je pense que c'est important d'insister, c'est l'aspect collectif et systémique. Alors, ça, on en a parlé ce matin, c'est pas juste des gestes individuels, c'est des groupes qu'on cible ici, puis ça, c'est une reconnaissance, enfin, que c'est pas seulement des cas isolés, mais que c'est tout un système qui, par toutes ses décisions, a fait en sorte qu'il y a tout un groupe qui est profilé. Donc, c'est pas juste un certain nombre de personnes. Le problème, évidemment, c'est que quand on arrive aux solutions, alors là, on analyse le problème de façon collective et systémique, mais après ça, quand on arrive aux solutions, on demande aux gens de déposer des plaintes individuelles. C'est un peu dommage parce que toute l'action collective, je pense entre autres à l'opération Droit Devant, au RAPTIM, à la façon dont on a pensé la résistance à la judiciarisation des personnes itinérantes, on l'a pensé de façon collective, puis ça serait le fun qu'on puisse déposer une plainte de façon collective, ça serait le fun que les organismes puissent parler au nom des personnes profilées, pas juste une plainte à la fois, parce que c'est long. Comme on l'a dit, on a fait un appel aux plaintes ce matin, mais ce serait le fun qu'on puisse déposer collectivement des plaintes aussi. Autre élément du rapport qui est important, c'est cette idée de l'absence de justification raisonnable. Alors, on a dit qu'il n'y a pas de bonne raison valable pour faire du profilage social, pour discriminer les personnes itinérantes, pour les surjudiciariser, pour les exclure des espaces publics, pour leur donner des contraventions pour flânage, pour consommation d'alcool dans l'espace public, pour dormir là où c'était une place, mais c'est devenu un parc, fait qu'on l'a fermé. Donc, il n'y a pas de bonne raison. Et on les a éliminés, en fait, les raisons qui étaient mentionnées par les autorités, que ce soit les plaintes des résidents. Et là, on a démontré, à travers mes recherches, j'avais déjà démontré que, à mon avis, c'était surestimé, là, qu'il n'y avait pas autant de plaintes de la population pour les agissements des personnes itinérantes des populations de rue, que c'était basé sur une perception. Alors ça, je pense que c'est important de le dire. Ça dérange pas autant de monde qu'on pense, et arrêter de s'appuyer là-dessus pour nos interventions. Alors, maintenant, un aspect qui apparaît pas dans le mémoire de la commission, puis sur lequel on travaille présentement, donc pour vous dire où on s'en va, parce que le profilage dans l'espace public, c'est une chose, mais il y a aussi ce qui se passe une fois qu'on a obtenu une contravention, puis que là, on est rendu dans le système de justice pénale. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est non seulement la contravention est vécue comme une injustice, mais le passage dans le système judiciaire est aussi vécu comme une injustice. Et c'est, contrairement au fait que dans les espaces publics, on les voit partout, les personnes profilées dans le système judiciaire, on les voit nulle part. Alors, elles sont ni vues, ni entendues, leurs droits sont pas respectés, ils sont pas représentés, ils sont jugés par défaut, condamnés par défaut. Personne n'en entend parler, sauf quand on est rendu au temps de faire la perception de leur contravention. Alors là, on se rend compte que, oups, la personne à qui on a donné une contravention n'a pas d'adresse ou a donné l'adresse d'un refuge. Alors, à ce niveau-là, il y a aussi beaucoup de violations de droits, puis il va falloir continuer à travailler là-dessus. Maintenant, pour peut-être faire le pont avec ce qui s'en vient au niveau des ateliers, juste insister sur un certain nombre de points qui, à mon avis, sont communs entre les différents types de profilage. Donc, d'abord, à mon avis, le profilage social, comme le profilage racial ou politique, tire beaucoup son origine de l'adoption de la politique de lutte aux incivilités. Pour le profilage social, je pense qu'on en a fait la démonstration. Pour les autres types de profilage, souvent, c'est les petits délits, la petite criminalité qui vont servir de prétexte pour aller chercher les gens, pour se rapprocher des communautés, pour investiguer davantage. Alors, évidemment, on sait que l'affaire Villanueva a originé d'une contravention pour jouer au dé dans les parcs. Alors, petite criminalité, des incivilités, des prétextes pour en savoir davantage sur les gens pour les profiler, finalement. Donc, à mon avis, ça, c'est clairement un point commun. L'autre point commun, c'est que il y a beaucoup de discours qui servent à justifier ce qui est injustifiable, qui sert à rendre juste ce qui est profondément injuste. J'ai parlé de l'existence de plaintes. Alors, le fait qu'on se cache toujours en arrière des plaintes des citoyens, alors qu'il n'y en a pas nécessairement autant qu'on pense. Il y a d'autres choses. On va souvent dire que tous les comportements des personnes itinérantes sont causent des préjudices. Alors, on a le préjudice très large, là. On exagère, évidemment, beaucoup, là, tous les préjudices causés par ces personnes-là. On vit dans un monde où c'est pas la sécurité qui compte, mais la perception de sécurité, où c'est plus nécessairement le droit à la vie qui compte, mais le droit à une qualité de vie. Puis souvent, la qualité de vie, ça veut dire pouvoir bien consommer, en paix, sans avoir nécessairement se faire rappeler qu'il y a des gens qui sont moins en état de consommer que nous. Donc, tout ça, ce sont des faux discours qui servent à justifier des politiques répressives. S'il y a un discours, peut-être, qui est propre au profilage social, puis que je pense qu'il faut aussi dénoncer, c'est le discours du choix. Alors, cette idée que, puis ça, c'est peut-être plus peut-être, je dis peut-être, là, parce que je pense qu'il y a des nuances à faire aussi pour les autres types de profilage, mais pour les personnes itinérantes, pour les personnes pauvres, c'est une chose qui revient constamment dans tous les discours officiels, dans toutes les décisions des tribunaux. On dit, c'est un peu de votre faute, finalement, si vous êtes dans la rue, si vous êtes pauvre, si vous n'avez pas trouvé d'emploi, vous avez juste à travailler, vous avez juste à faire autre chose de votre vie. On lit le squeegee, c'est un mode de vie, c'est une façon de gagner sa vie, il pourrait y en avoir d'autres. Alors, ce discours que si vous choisissez d'être dans la rue, si vous choisissez de commettre ces petites infractions-là, mais c'est normal qu'on vous réprime, qu'on vous donne des contraventions, qu'on vous passe à travers le système de justice pénale. Alors ça, évidemment, je pense qu'il faut aussi le dénoncer, puis je pense qu'il faut y aller avec davantage d'éléments de contexte social. Et je pense que on gagnerait beaucoup à comprendre que, évidemment, les choix sont limités, que les contraintes sont nombreuses, puis que les choix des autorités politiques de mettre l'accent là-dessus, sur ces petites incivilités-là, créer des situations qui n'existaient pas, créer des situations de toutes pièces. Alors, comme ce matin, Will disait, c'est comme si on se crée du travail ici. Alors, je conclurai un peu comme ça, puis je pense que Céline va être fière de moi parce que je suis pas mal dans mon temps. Je conclurai en disant que je pense qu'à mon avis, une des meilleures solutions contre le profilage social, c'est j'allais dire davantage de profilage social, puis je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. En fait, c'est davantage de contexte social, davantage de compréhension de ce qui se cache. C'est pas les gens qu'il faut profiler, c'est leurs problèmes. Il faut mieux comprendre, il faut mieux accepter, il faut mieux voir ce qu'il y a derrière ça, dénoncer les injustices, évidemment, qui se cachent là, derrière le profilage. Donc, je pense que ça, c'est certainement une piste, là, davantage de visibilité pour les profilés. Alors, voilà.
Merci, Marie-Ève. Une fois, je passe moins pour punitive. Ouais. Monsieur Niemi, je vous laisse la parole.
Merci. Merci, Madame Bello. Je crois qu'on parle un peu des enjeux juridiques cet après-midi, hein. Donc, je vais peut-être vous situer un peu dans le temps par rapport à cette question, parce que nous sommes un organisme qui, entre autres, s'occupe de la défense des droits des minorités contre la discrimination raciale. Et au fil des ans, on a découvert que lutter contre la discrimination raciale dans une ville aussi pluraliste que Montréal ne suffit pas, mais il faut tenir compte de toute forme de discrimination, parce que de plus en plus, surtout avec la pauvreté croissante, aussi la désinstitutionnalisation, il faut qu'on tienne compte aussi d'autres phénomènes sociologiques, socio-économiques. Nous recevons, entre autres, régulièrement des cas des appels de personnes qui sont victimes de discrimination ou selon vos victimes de discrimination fondées sur la race ou la religion ou l'origine ethnique, qui constituent à peu près 80% des appels qu'on reçoit. Mais de plus en plus, on reçoit aussi des qu'on appelle monsieur, madame, tout le monde, qui se sentent discriminés à cause de leur état civil, leur âge, leur handicap et leur orientation sexuelle, parce que ça touche la question fondamentale de l'égalité et l'accès à la justice quand il y a des implications majeures. On traite aussi de ces cas-là. Nous avons débuté le travail contre le profilage racial à Montréal en partir de 2002, quand on a commencé à recevoir beaucoup d'appels de la part des parents, surtout noirs, qui parlaient du fait que leurs enfants se font interpeller de manière assez violente dans les parcs, dans les espaces publics et surtout dans les métros. Et là, on parle des séquelles physiques comme des bras cassés et puis des séquelles vraiment, c'est plus que psychologique et des conséquences plus que financières. Donc, on a mis sur pied un groupe de travail sur le profilage racial et à partir de là, c'est là qu'on a découvert qu'il y a entre autres que Montréal, disons, il y a des pratiques qu'il faut revoir. Par exemple, on a travaillé sur cette question depuis 1983, et qu'on a découvert qu'avec la fusion et la création de la nouvelle ville de Montréal en 2002, l'une des choses que le législateur a fait, c'est que de rendre à huis clos les travaux de la Commission de la sécurité publique. Dans les années 80, on a lutté pour que la Commission de la sécurité publique de la communauté urbaine de Montréal à l'époque soit ouverte, parce que c'est ça la transparence et la démocratie, et puis on était très surpris d'apprendre qu'on a fermé de nouveau cette commission qui décide entre autres des orientations, des politiques, des mesures budgétaires, tout ce qui concerne la sécurité publique et la sécurité civile. En septembre, en été 2003, on a commencé à recevoir des appels de gens d'un logement public à Saint-Michel qui parlaient d'un harcèlement policier constant des jeunes, surtout des jeunes d'origine haïtienne et latino-américaine dans ce quartier-là, qui sont des résidents de logements publics. Donc, on est allé sur place, on a passé des jours et des nuits à voir et collecter un peu les témoignages. Et c'est là où on a initié, je crois que ce sont des plaintes qui ont vraiment initié tous les débats sur le profilage racial, parce qu'on a découvert qu'il y a des pratiques policières, disons, un peu douteuses. À titre d'exemple, on pénalisait beaucoup les jeunes d'avoir commis ce qu'on appelle des incivilités, même, par exemple, le crachat, parler fort, émettre un cri audible à l'extérieur du cri. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire 80 ou 120 dollars de pénalité. Et donc, sauf que c'est très répétitif. Et quand les jeunes, par exemple, ne comprennent pas, se questionnent et rentrent dans un argument avec le policier, ils sont accusés d'entrave. Sauf que quand notre avocat est allé défendre certains jeunes à la cour municipale contre ces billets, on a découvert une chose. Et si vous êtes avocat ou avocat en devenir, posez toujours la question compétence. La première question que notre avocat a regardé dire, est-ce que le terrain sur lequel ces jeunes se trouvaient et sur lequel ces jeunes recevaient le billet de contravention émis par le policier en vertu des règlements municipaux de la ville de Montréal, est-ce que ce terrain appartient à la ville de Montréal ou est-ce qu'il appartient à l'OMHM, qui est en pratique le propriétaire de ces logements publics? Et si ça appartient à l'OMHM, c'est considéré comme un terrain privé, même si c'est un organisme public, sur lequel les règlements municipaux ne s'appliquent pas. Okay? Et sur cette base-là, la poursuite à la cour municipale a retiré les billets de contravention déposés contre les jeunes. Et là, on s'est aperçu, apparemment, c'est une pratique courante, mois après mois, année après année, c'est-à-dire que la ville de Montréal, par le biais de son service de police, a commis une infraction grave. On a pénalisé les gens en vertu des règlements qui ne s'appliquent même pas sur le territoire, donc qu'on appelle ultra-vires. La question qu'on s'est posée, est-ce qu'on devrait intenter une poursuite de recours collectif au nom de tous ces résidents dont le fils ou la fille a été pénalisé? Mais malheureusement, on manquait de moyens. Et puis, apparemment, le fonds d'aide recours collectif ici au Québec n'a pas encore été testé par rapport à la question de discrimination. Donc, on veut revenir là-dessus lors d'un autre moment. Mais tout ceci démontre, quand on travaille là-dessus, qu'il faut qu'on tienne compte, surtout dans le contexte de Montréal, trois facteurs: race, pauvreté et jeunesse. Parce que derrière toutes les questions d'application de la loi, c'est une question d'une mentalité, une culture politique et juridique, municipale, collective, un climat social, politique, face à la manière dont nous traitons non seulement la diversité ethnique, mais aussi les jeunes et les personnes pauvres, les quartiers pauvres, et à l'intérieur de tout ça, toutes les personnes jugées qui ne font pas partie, qu'on appelle de la norme. C'est pour ça que nous avons, au fil des ans, déposé un gros nombre assez significatif de plaintes devant la Commission des droits de la personne et du commissaire à la déontologie policière. On sait que c'est difficile de déposer des plaintes individuelles, mais c'est seulement en déposant un nombre illimité de plaintes, dans un sens qu'on force politiquement le système, y compris les organismes de la commission et le commissaire, de vraiment réviser leur façon de faire, et parce que ça ajoute de la pression. Comment la commission des droits ou le commissaire de la déontologie policière peuvent traiter des plaintes quand ils n'ont pas de ligne directrice pour définir ce que c'est le profilage racial? Et c'est pour ça, je crois qu'avec toutes sortes de démarches administratives, judiciaires et politiques, nous avons actuellement au moins une politique opérationnelle sur le profilage racial. Et en même temps, avec tout ce qui se passe dans le reste du Canada et aux États-Unis, parce que nous avons des liens très actifs avec plusieurs organismes, surtout aux États-Unis, sur cette question, les décisions des tribunaux, surtout en Ontario, avec la Cour d'appel de l'Ontario, qui est considérée comme étant peut-être l'instance judiciaire la plus progressiste au Canada sur ces questions, il y avait des décisions qui ont été rendues sur le profilage racial et qui a mené à la première décision de ce type dans R versus Campbell, ici à la Cour du Québec. Ça, c'est la première décision sur le profilage racial au Québec. La deuxième décision vient du comité de déontologie policière dans un dossier à Québec en 2006. Et la troisième décision qui touche la Société de transport de Montréal, c'était une décision... Et ça, il faut être très créatif. C'est une décision de la Cour des petites créances, la Cour du Québec, Valcoff contre le STM. L'histoire d'un monsieur dont l'épouse, qui est d'origine asiatique, s'est fait interpeller dans le métro, et puis on a fait des pratiques de vérification, qui, entre autres, que le juge a considéré comme étant pratiquement du profilage racial. Donc, par le biais de la Cour des petites créances, en 2007, cette décision est venue alimenter la jurisprudence québécoise en matière de droits à personne. Nous, avec les dossiers que nous avons répertorié, en fin de compte, des pratiques qui sont très étroitement associées au profilage racial, mais ça s'applique aussi au cas de profilage social. Et on les a présentés hier devant la consultation de la Commission des droits, et peut-être je vais prendre 2-3 minutes pour le résumer pour vous, parce que est-ce qu'il y a des avocats en devenir dans la salle? Ou des militants?
Dénoncez-vous.
Affichez-vous. Je veux dire, parce que quand on a à peu près une centaine de plaintes qui proviennent, on peut établir ce qu'on appelle un pattern. C'est comme vous enquêtez sur un tueur en série, vous connaissez, qu'on appelle les empreintes digitales ou autres de ces pratiques-là. Premièrement, nous avons identifié des pratiques d'interpellation du groupe Eclipse. Quand on commençait à recevoir l'appel des jeunes noirs un peu partout dans la ville, de dire que quand je m'en vais dans un club dans le centre-ville, samedi ou vendredi soir, le groupe Eclipse vient toujours me demander des pièces d'identité et juste nous, les jeunes noirs. Donc, c'est un indicateur important. Deuxième indicateur, c'est l'application rigide de la politique sur les incivilités et la tolérance zéro, qui, d'ailleurs, n'ont jamais été l'objet de débats à la ville. On voit souvent qu'accompagnant les actes d'interpellation, il y a aussi des propos explicitement discriminatoires ou méprisants à l'endroit des gens en fonction de leur origine ethnique, de leur âge ou de leur sexe. Surtout pour les jeunes garçons. Et je parle ici non seulement de la sécurité publique au niveau de la police de Montréal, mais aussi la police de Laval, la police de Longueuil et aussi la sécurité privée. Quatrième indicateur, le recours à des pratiques humiliantes de fouilles et d'arrestation, comme le fait de baisser le pantalon des jeunes. Surtout, ça arrive plus souvent aux jeunes noirs, sinon exclusivement aux jeunes noirs. Baisser le pantalon des jeunes dans R versus Campbell, il est question aussi de ce monsieur Campbell qui s'est fait baisser son pantalon lors d'une fouille en pleine place publique. Nous avons des cas comme ça. Le cas qu'on vient de recevoir ce matin, c'est une jeune fille noire qui, lors elle s'est fait erreur sur la personne, l'objet d'une fouille sur la place publique, baisser le pantalon, puis juste elle a réagi pour maintenir son pantalon, puis elle se retrouve avec une accusation criminelle d'entrave. Cinquième indicateur, on remarque le recours automatique à une force excessive, dont la mise de menottes, lorsque cette force n'est même pas justifiée. Sixième indicateur, la dérogation intentionnelle à la loi de la part des policiers et des fonctionnaires dont les efforts d'identifier et de pénaliser des personnes racisées à titre d'exemple, exiger que les passagers des véhicules de s'identifier, ce qui est contraire au code de la sécurité routière, car que seuls les conducteurs doivent s'identifier. Septième indicateur, l'imposition des conditions de remise en liberté par la police et la magistrature suite à une arrestation où on interdit la présence de la personne sur un territoire géographique très vaste. Un jeune noir interpellé sur le boulevard Saint-Laurent un samedi soir, accusé parce qu'il se considère l'objet de profilage racial, dans sa feuille, on l'interdit qu'il se trouve sur l'île de Montréal, alors qu'il demeure à Hansik. Donc, on a fait quelques interventions pour circonscrire le territoire géographique. Maintenant, il est interdit de se trouver dans le centre-ville, alors qu'il n'est même pas encore trouvé coupable. Huitième indicateur, la criminalisation différentielle quasi automatique. Je crois qu'on a parlé de ça, l'abus du pouvoir discrétionnaire. Il y a aussi la vérification, neuvième indicateur, vérification de statut de citoyenneté d'une personne racisée qui ne maîtrise pas la langue, l'anglais ou français. Et souvent, on appelle tout de suite l'immigration pour vérifier si la personne est citoyenne canadienne ou résident permanent. Ce qu'on remarque surtout auprès des jeunes, et j'espère avoir un écho auprès des groupes touchés par le profilage racial, social, c'est le refus de la part des policiers d'informer une personne détenue et arrêtée de ses droits constitutionnels. Et lorsque ces jeunes réclament leurs droits, parce qu'ils ont regardé ça à la télévision, on méprise et on se moque de leurs revendications, de leurs droits constitutionnels. Et dernièrement, la prise par des policiers de photographies des jeunes racisés au milieu scolaire et dans les stations de métro, sans aucune justification et sans leur consentement. Donc, toutes ces pratiques-là viennent illustrer qu'il y a vraiment des dérapages très sérieux dans la façon dont on est en train de réglementer les comportements des citoyens dans l'espace public. Maintenant, pour nous, c'est plus une question de réglementation, de profilage social et racial, mais c'est une question fondamentale à la démocratie, parce qu'on considère que le profilage est une violation du droit à la ville. C'est un concept que l'UNESCO et les Nations Unies sont en train de développer. C'est que qui décide de ce genre de mentalité, de culture policière, de pratique judiciaire ou de façon de faire dans une ville? Parce que souvent, et l'erreur que j'aimerais vous laisser en terminant, c'est de ne pas vous limiter au débat sur le profilage racial en l'associant seulement au comportement individuel des agents de la loi, mais il faut regarder aussi les politiques, les lignes directrices, et même qu'on appelle ça parfois en anglais le marching orders, des ordres donnés à des policiers. Qui décide de ces politiques-là et pourquoi nous n'avons jamais eu débat public sur ces questions à l'hôtel de ville? Donc ça revient à une question de gouvernance démocratique, une question d'imputabilité politique aussi. J'aurai l'occasion peut-être un peu plus tard de rentrer sur les multiples manœuvres judiciaires initiées par la ville de Montréal contre la Commission des droits de la personne et contre nous, parce qu'on est partie plaignante dans ces procédures aussi. D'ailleurs, la ville nous mène, la Commission et nous, à la Cour d'appel sur une question de réglementation municipale. Mais la question ultime, c'est que est-ce qu'il y a des politiques dirigées intentionnellement que les policiers doivent mettre en œuvre? Et quelles sont ces politiques-là? Qui décide de ces politiques-là? Donc là-dessus, j'espère que vous pouvez retenir l'essentiel de ces débats, c'est le manque de transparence et de démocratie au niveau municipal, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on revendique pour avoir les réformes nécessaires pour qu'à Montréal, on ne pénalise ni la diversité ethnique, ni la pauvreté, ni la jeunesse. Merci.
Bonjour. Premièrement, deux commentaires préliminaires. Premièrement, pour vous dire que c'est quand même, c'est à la fois un honneur, mais c'est quand même difficile émotionnellement pour moi d'être ici aujourd'hui. Ce matin, je me suis levé, j'avais quand même pas mal de tristesse. Natacha Bincement, c'était une amie, mais c'était aussi mon avocate, en fait. J'avais été arrêté le 26 avril lors d'une arrestation de masse, et c'était elle, en fait, qui représentait avec Marjolaine Desparles, dont on était les deux porteurs d'un recours collectif contre le SPVM, contre l'infâme Maître Boisvert. Autre commentaire aussi, il y a comme un côté paradoxal, évidemment, ce que le colloque se tienne à l'UQAM, parce que si l'UQAM se targue d'être une université progressiste, elle a des politiques claires de profilage social et même politique qui sont évidemment appliquées par ses gardes de sécurité, qui appellent des fois 4-5 collègues en renfort pour mettre dehors, par exemple, un itinérant. Je vais donc parler de profilage politique. Alexandre Popovic en a parlé tout à l'heure, très bien d'ailleurs, donc je vais dire des choses sans doute qu'il a déjà dites ou déjà évoquées. Le profilage politique, évidemment, c'est une notion un peu plus marginale qui s'inspire de la notion de profilage social ou de profilage racial, qui est l'idée qu'on est discriminé, c'est-à-dire que la police intervient de façon particulièrement plus répressive envers des individus ou des catégories d'individus qui sont identifiés comme porteurs d'idées politiques problématiques pour l'ordre social, généralement comme porteurs d'idées politiques marginales. Ou même, comme je vous le dirai tout à l'heure, comme porteurs d'aucune idée politique, mais qui manifestent en fait par pure motivation de destruction. C'est une sorte de jeunesse anarchiste irrationnelle et animée de pulsions destructrices. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Donc, ce que je veux vous proposer de faire maintenant, c'est premièrement une mise en contexte, disons, historique et internationale assez rapide sur comment on a étudié, disons, l'évolution des rapports de la police en Occident avec les mouvements sociaux contestataires et pour, dans une deuxième partie, en fait, arriver, disons, au contexte actuel, européen, occidental, nord-américain, puis après ça, montréalais. Donc, et je vais aller évidemment assez rapidement sur chacun de ces éléments. Première chose à dire dans dans une mise en perspective historique, c'est qu'au cours du 20e siècle, avec évidemment beaucoup de nuances, qu'il faudrait apporter beaucoup de nuances, mais disons qu'au cours du 20e siècle, il y a un processus général, disons, de baisse de tension et de baisse de violence des forces policières face aux manifestations politiques. Premièrement, parce qu'en fait, parce que c'est confié à la police, alors qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'était généralement l'armée, en fait, qui était appelée à intervenir face aux manifestations, tout simplement parce que les corps policiers étaient pas assez nombreux ou pas formés pour intervenir face à des foules. Et donc, l'armée intervenait avec des armes, avec ses propres armes, ce qui donnait évidemment souvent réellement des carnages. On pense, par exemple, aux manifestations contre la conscription à Québec en 1918, où l'armée s'est déployée, en fait, avec des mitraillettes contre une foule qui protestait à Québec et a évidemment fait usage de ces mitraillettes. Donc, le fait que au début du 20e siècle, on forme, en fait, on engage et on forme des policiers au contrôle de foule et que c'est eux qu'on déploie, a un effet quand même de réduction de la violence de l'État face aux manifestations. Comme je dis, tout ça est relatif. Il y a évidemment plein d'exemples plus problématiques selon qui vous êtes et qui, quand vous manifestez. Il y a cette professionnalisation de la police, c'est-à-dire qu'il y a des corps de police constitués et formés au contrôle de foule, avec des développements de tout un attirail, toute une technologie, tout un appareillage d'équipements liés au contrôle de foule. Donc, ils arrivent plus avec des armes. Ils ont encore leur arme à feu, évidemment, mais ils sont aussi dotés d'armes qui sont considérées comme moins violentes. Et puis, si on fait un saut dans le temps, à partir des années 60, fin des années 60, début des années 70, particulièrement suite à des fiascos médiatiques aux États-Unis où, en fait, des images de policiers matraquant dans ce cas-là, c'était des manifestants jeunes blancs contre la Convention démocrate. Évidemment, quand ils matraquent des Afro-Américains dans les banlieues, ça fait moins réagir. Mais quand c'était des jeunes blancs qui ont été matraqués devant les médias, là, certains corps policiers, dont le corps de police américain, se sont trouvés devant des problèmes d'estime d'eux-mêmes et de crédibilité suite à des commissions d'enquête du Congrès où on a même parlé d'émeutes policières, c'est-à-dire que le commandement policier avait perdu le contrôle de ses troupes qui ne faisaient que attaquer sauvagement les manifestants. Et donc, la police a développé, en fait, des modes d'intervention, disons, négociés avec les forces manifestantes pour essayer de faire réduire la tension. C'est une approche qu'on appelle de désescalade. Cette approche de désescalade, elle est associée aussi à un développement, en fait, d'une typologie, je dirais, binaire dans la perception que les policiers ont des manifestants et des manifestations et des manifestantes. Ils ont tendance à distinguer, alors qu'au début du siècle, par exemple, n'importe quelle manifestation était généralement perçue comme problématique pour l'ordre social, plus le siècle avance, au 20e siècle, et plus on commence à distinguer chez les policiers les bons manifestants des mauvais manifestants. Donc, le bon manifestant est identifié par les policiers comme étant quelqu'un qui a un groupe qui a des revendications politiques légitimes. Ça peut être salarial, ça peut être d'autres types de revendications. Il est généralement considéré comme un acteur politique rationnel. Et il est généralement décrit par les policiers quand ils en parlent comme l'exemple du, entre guillemets, bon père de famille. Donc ça peut être un syndiqué, par exemple. Je vais donner mon propre exemple tout à l'heure quand on parlera de Montréal. Le mauvais manifestant, il est généralement jeune, il est généralement irrationnel, c'est-à-dire c'est simplement une boule d'émotion. Il n'a pas réellement de revendication politique, il est simplement dans la rue pour faire le trouble et il faut donc le neutraliser. Cette dichotomie, elle est exprimée par les policiers eux-mêmes. Alex Popovic a tout à l'heure cité un rapport de police. Donc, les policiers eux-mêmes ne se gênent pas pour dire, en fait, qu'ils identifient des groupes comme étant, soit que ce soit dans des rapports, soit des fois, c'est d'ailleurs sur la rue, si vous avez eu l'opportunité de manifester à Montréal dans certaines manifestations où les policiers, justement, vous perçoivent comme des mauvais manifestants, ils ne se gênent pas sur la ligne anti-émeute pour vous traiter de pouilleux, pour vous dire que vous êtes des BS, de trouver une job, etc., etc. Les mauvais manifestants sont donc, en fait, selon les policiers, des déviants. Mais j'aimerais dire, en fait, que les policiers sont renforcés dans leur jugement par tout un ensemble d'acteurs sociaux. Je pense, par exemple, aux médias. On a beaucoup parlé du Journal de Montréal en lockout, mais il y a d'autres médias, même des médias tout à fait qui semblent a priori respectables, qui, en fait, insistent pour eux aussi distinguer, en fait, entre les bons et les mauvais manifestants, les politiciens et des fois aussi des personnes qu'on pourrait penser comme des alliés. Je vais citer ici rapidement Suzanne George, qui est une représentante de Greenpeace et d'un groupe altermondialiste qui s'appelle ATTAC, qui disait, je cite, ça va donner un bon exemple de ce qu'on peut identifier comme déviant, qui parlait après le sommet du G8 en France en 2003, donc de ce qu'elle appelait les casseurs, pour s'en distinguer. Donc, elle voulait en fait que son groupe plus réformiste soit distingué en fait des mauvais manifestants. Elle dit « Les casseurs provenaient, selon Suzanne George, donc, d'une sous-culture minoritaire, les cuirs noirs heavy metal spike air, crasseux de Zurich, dont l'unique but dans la vie est apparemment de casser. Seul un psychologue ou un anthropologue qualifié pourrait dire si le politique leur inspire le moindre intérêt. » Fin de la citation. Donc, quand des prétendus alliés prennent la parole ainsi publiquement et que c'est relayé par les médias, évidemment, ça envoie, je pense, des signes clairs aussi aux policiers qu'ils ont en fait le champ libre pour réprimer les groupes qui n'ont finalement, de toute évidence, très peu d'alliés. Contexte actuel, donc ça ouvre un peu sur le contexte actuel, justement, avec la citation de Suzanne George. J'ai parlé au 20e siècle d'un processus général, disons, de pacification des interventions policières face aux manifestations politiques. Cela dit, dans les années 90, on aperçoit, en fait, un peu partout en Occident, un durcissement des opérations policières contre les manifestations politiques, principalement celles identifiées comme anticapitalistes ou liées à l'altermondialisme, ou en tout cas à la frange anticapitaliste de l'altermondialisme. Ce durcissement des interventions policières, en fait, procède de plusieurs façons. Entre autres, on va, dans les corps policiers européens, par exemple, on rabat des techniques développées de contrôle de foule plus répressives, développées, par exemple, lors de ce qu'on appelle les émeutes de banlieue, ou le contrôle des hooligans, donc ces espèces de clubs de partisans sportifs qui se déplaçaient partout en Europe dans les années 80 et 90, souvent pour provoquer des batailles. Et donc, les forces policières ont développé des techniques d'intervention répressive dans ces situations qui ont été rabattues contre les rassemblements altermondialistes. Mais il y a aussi, évidemment, un développement d'expertise policière répressive propre à la gestion des foules du mouvement altermondialiste, c'est-à-dire que les corps policiers apprennent les uns des autres. Et donc, vous savez, il y a eu des manifestations célèbres comme à Seattle ou au sommet des Amériques. À chaque fois, des corps policiers des villes qui vont accueillir les sommets prochains sont invités, en fait, à voir comment on procède. Et au fil des manifestations de pays en pays, les policiers s'inspirent ou, disons, je dirais, entre guillemets, améliorent leur technique de contrôle de foule. On est donc passé du modèle de Seattle, qui était un peu candide et naïf, au modèle de Miami, disons, en 2003, contre un sommet des Amériques, où là, carrément, il y avait des véhicules militaires qui patrouillaient dans la rue et qui étaient beaucoup plus répressifs. Et d'ailleurs, suite aux fameuses manifestations de Seattle en 1999, une recommandation écrite par d'anciens policiers de la ville de Seattle, commandée par le conseil municipal pour faire le point sur ce qui était arrivé, recommandait quatre nouvelles attitudes avec quatre recommandations principales qui ont été reprises dans les sommets suivants, c'est-à-dire des zones interdites de manifestation, c'est les fameuses zones, c'est les fameux périmètres de sécurité, d'empêcher, de déclarer illégales les manifestations dès les premiers signes de turbulence, de muscler les dispersions, les charges de dispersion, et enfin de procéder à des arrestations de masse. Ce qui a donné, évidemment, dans les années qui ont suivi, justement, un nombre incroyable d'arrêtés lors des manifestations politiques, souvent dans une indifférence relative des médias, c'est-à-dire que souvent c'est relégué dans une petite ligne, en fin d'article. Donc, par exemple, quelques mois après les manifestations de Seattle en 1999, on a eu 858 arrestations à Prague en septembre 2000. C'était une réunion du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. 539 à Göteborg en juin 2001, c'était un sommet de l'Union européenne. Bref, la liste est longue. On atteint des sommets avec, par exemple, à New York en 2004, 1821 arrestations lors de la Convention républicaine. Et lors du sommet du climat à Copenhague, une chose qui passait absolument inaperçue, 1200 arrestations à l'automne dernier. Et comme je vous dis, c'est vraiment des événements extrêmement couverts par les médias, mais cette information des arrestations de masse passe généralement inaperçue. Comme le temps file, je vais passer sur sur l'information, sur la discussion de ce que c'est une arrestation de masse. J'imagine les gens peuvent se l'imaginer, mais ça implique évidemment beaucoup d'humiliation. Il y a les tie wraps, vous êtes espartaire, vous devez attendre très longtemps. Bref, je passe sur ça. Les arrestations de masse sont, Alexandre Popovic l'a mentionné, sont évidemment pas non plus la seule forme de profilage politique. Il y a les visites du SCRS, l'intimidation, la provocation, les visites à domicile, les arrestations ciblées d'individus. Alexandre Popovic lui-même, d'ailleurs, à la fin des années 90, était généralement ciblé quand il était reconnu. Maintenant, c'est Jaggi Singh, donc il se passe le relais. Mais les policiers aiment bien avoir un chef des anarchistes à cibler systématiquement. On arrive au SPVM et donc à la pratique des arrestations de masse et du profilage politique à la Ville de Montréal. On l'a dit, je le rappelle, la Ville de Montréal et le SPVM ont été identifiés nommément par le Comité des droits de l'homme de l'ONU en 2005 pour cette pratique d'arrestation de masse. Donc le Comité des droits de l'homme avait demandé en fait une enquête publique qui n'a évidemment jamais eu lieu. Ce profilage politique ou ces pratiques d'arrestation de masse semblent normales, semblent validées, en fait, par les autorités politiques de la Ville de Montréal. Ils visent, donc, les forces anticapitalistes. Dans certains cas, les forces étudiantes, je dirais, le mouvement étudiant radical. Mais aussi, et c'est selon moi un paradoxe que les observateurs et observatrices ne remarquent pas souvent ou ne soulignent pas souvent, ils ciblent évidemment aussi les mouvements contre la répression policière. Et donc, là, il y a un problème vraiment pernicieux. Alexandre Popovic en a parlé. C'est qu'en fait, les groupes qui protestent et qui mobilisent contre la brutalité policière ou contre, en fait, les pratiques discriminatoires de la police sont eux-mêmes, en fait, ciblés par la police de manière particulièrement brutale. Alexandre Popovic a parlé de la CRAP. Il y a aussi le COBP qui organise, entre autres, les manifestations du 15 mars qui donne lieu, en fait, à un déploiement policier tout à fait provocateur. Là aussi, on est traité de jeunes, de marginaux, de pouilleux, de BS, etc. Je vais juste, pour terminer, donner une comparaison pour vous montrer, en fait, en quoi il s'agit bien d'un profilage, c'est-à-dire que c'est la perception que les policiers ont des groupes politiques auxquels ils font face, qui font qu'ils les répriment, et non ce que les groupes politiques font. Parce qu'évidemment, vous me direz, ouais, mais les manifestations du 15 mars, on les connaît. C'est effectivement des casseurs, ils sont irresponsables, ils demandent pas de permis de manifester, ils sont instables, etc. Il faut bien quand même que la police fasse quelque chose. Donc, je termine sur cette comparaison. En 2009, en fait, le 15 mars 2009, où il y a eu des centaines d'arrestations lors de manifestations contre la brutalité policière, je courais, en fait, pour pas être arrêté. Et de toute évidence, les policiers n'avaient aucun respect pour la foule qui était devant eux. Il s'agissait simplement d'une sorte de chasse à l'homme et à la femme. Le 16 mars, donc le lendemain, qui est un lundi, c'était le début de la grève du syndicat des professeurs de l'UQAM. Je suis membre du SPUC et donc nous avons commencé à bloquer les portes d'entrée de l'UQAM. Des étudiants en gestion, en fait, fonçaient sur nos lignes de piquetage et appelaient le 911 pour que la police vienne, en fait, ouvrir la voie au savoir.
fait tout à fait particulier. La police est arrivée. Elle est venue nous voir, nous les picteurs, qui en fait, on occupait illégalement la voie. On bloquait illégalement, donc notre action était illégale. Ils avaient été appelés par des étudiants qui voulaient rentrer. Donc, les policiers sont venus nous voir. Donc, alors que le lendemain, ils nous couraient après avec des bâtons pour nous arrêter en nous tutoyant, là, ils nous vouvoyaient. Et en fait, ils se sont rapidement imposés comme médiateurs pour calmer, en fait, les étudiants en gestion et pour nous dire, bon, vous savez, ces gens-là, ils s'énervent un peu, mais en fait, on comprend, et puis tout va bien aller, puis vous êtes là combien de temps, etc. Et donc, ils étaient chummy-chummy avec nous. Et évidemment, c'était en grande partie parce que nous avions un statut socio-professionnel respectable. Nous étions ce que j'ai appelé tout à l'heure des bons pères de famille, indépendamment de notre statut conjugal, évidemment. Exactement. Et la grève a duré 7 semaines. Et pendant 7 semaines, en fait, pendant un certain nombre de jours, nous avons bloqué les portes de façon illégale jusqu'à ce que nous ayons une injonction. Après que nous ayons une injonction, nous avons fait des manifestations tous les jours sans permis dans les rues. Nous allions généralement devant le bureau du Premier ministre où, pour des raisons de sécurité, on bloquait toutes les portes. Donc, en fait, on perturbait l'activité. Et généralement, en fait, on revenait dans les rues sans qu'aucune voiture de police nous suive ou vienne nous importuner. J'en étais même un peu humilié. Si une voiture s'adonnait à passer par là, éventuellement, elle allait nous aider avec le trafic et la circulation pour nous aider à revenir plus calmement. Et donc, vous voyez, c'est bien pas ce qu'on fait, mais ce qu'on est qui fait que la police intervient. C'est pour ça qu'on peut parler, je pense, de profilage politique. Parce qu'évidemment, quand des étudiants, par exemple, de l'UQAM bloquent les portes, ceux qui viennent les voir, en fait, ce sont des policiers en tenue anti-émeute. Pendant les 7 semaines de la grève du SPUC, je n'ai jamais vu un seul policier en tenue anti-émeute. Merci.
Merci aux panélistes d'avoir respecté leur temps et nous avoir présenté des témoignages et des enjeux particuliers en termes de droit et en termes de recherche sur les questions entourant le profilage. Alors maintenant, j'ai un gros défi d'animation. Vous avez vu que l'animation, ça consistait à gérer du temps, mais ça gère aussi des consignes. Alors là, j'ai l'impression d'être le matin 8h-10 à la maison quand il s'agit de faire partir les enfants. J'ai un certain nombre de consignes à vous donner pour vous inviter aux ateliers avant de prendre quelques commentaires. Je vais peut-être prendre les commentaires finalement. Okay. Avant, hein, ça va être plus judicieux et
je suis tout seul cette fois.
Alors, je vais vous laisser commenter.
Ouais. Ben, on a parlé tantôt, bon, du fait que oui, c'est super bien, il existe des plaintes individuelles, il faut en déposer, mais qu'il faut collectivement aussi faire quelque chose. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a déjà une initiative qui a débuté en ce sens-là. Une initiative, par contre, qui elle-même est à l'initiative d'un collectif dont Francis a mentionné tout à l'heure, qui a pas super bonne cote, règle générale, à cause des médias, à cause de la police, dans le milieu communautaire. Plusieurs groupes ont tendance à se méfier du collectif opposé à la brutalité policière, cette bande de méchants casseurs, mais qui font des choses très bien, dont, entre autres, avec le RAPSIM et l'opération Droit Devant, avoir initié le projet RADI. Le projet RADI, c'est RADI pour rapport d'abus et de discrimination. En fait, le but, c'est que les personnes qui sont victimes d'abus ou de discrimination de la part de policiers remplissent des fiches qui sont anonymes et qui sont compilées à la fin de l'année par nul autre que Madame Bello. Et à la fin du processus, l'idée, c'est justement de faire une dénonciation collective, de dire « vous voyez, il y a un problème ». D'ailleurs, on encourage beaucoup les personnes qui remplissent des fiches pour RADI de remplir aussi des plaintes en déontologie policière. C'est pas parce qu'on fait l'un qu'on doit pas faire l'autre. Et donc, le formulaire et l'information sont disponibles sur le site du RAPSIM.
On a parlé d'action collective. Le 29 juillet 1996, je me trouvais à la place Émilie Gamelin, où il y avait un snack de minuit et 77 personnes ont été arrêtées à cette occasion, ce qui a mené à l'émission de constat d'infraction pour s'être trouvé dans un parc en dehors des heures d'ouverture alors que c'était une place publique. Et je ne veux pas être trop technique et faire un long récit, mais ça a donné lieu à l'introduction d'une demande à recours collectif pour lequel le procès va commencer en février prochain. Et donc, à l'origine de ces événements, il y avait une pétition qui était passée aux commerçants de la place du Puy, dans laquelle le poste 33 disait vouloir nettoyer le parc de ces éléments indésirables.
Alors, bonjour, je suis Carole Fizet de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. J'aimerais faire du pouce, parce qu'on n'a pas eu le temps avant dîner, sur l'intervention de M. Prosper qui énonçait un certain nombre de solutions possibles. Lorsqu'il parlait des quotas, en tout cas que la ville devrait refléter la composition de la population montréalaise, dans le fond, de ces les personnes qui reçoivent les services, en fait, c'est public. Sur le site Internet de la Commission des droits de la personne, on peut aller voir dans le segment, la section Programme d'accès à l'égalité, et à la fois la Ville, à la fois la STM et à la fois le SPVM ont des programmes d'accès à l'égalité. Donc, où, justement, ils ont des objectifs de représentation équitable des communautés culturelles et des personnes racisées. Alors, je vous invite à le faire. Donc, CDPDJ, www.cdpdj.qc.ca. Alors, je vous invite à venir naviguer pour toutes sortes d'autres bonnes raisons aussi. Il y a plein de choses intéressantes sur notre site.
Merci.
Bonjour, mon nom c'est Alexandra Pierre, je suis de la Fédération des femmes du Québec et je voulais faire une remarque en fait, faire un petit peu un lien avec la présentation ou la conclusion de Monsieur Francis Dupuy-Déry concernant le profilage racial. Je pense que c'est important de dire que le profilage racial c'est ce que on fait de façon disproportionnée, mais que c'est aussi, comme l'a montré son exemple de la fin, ce que l'on ne fait pas. C'est-à-dire que il y a beaucoup de cas, entre autres par rapport à la police, où est-ce que à cause des préjugés que les agents et plus ont concernant certains groupes, ils n'agissent pas sur un certain nombre de problématiques. Je pense entre autres à la Fédération des femmes. Il y a beaucoup de nos groupes membres qui et nous-mêmes qui s'inquiétons du traitement fait par exemple aux femmes autochtones qui disparaissent, mais aussi la façon dont les agents, la police traite les cas d'agression sexuelle quand il s'agit de femmes racisées par rapport en comparaison à quand il s'agit de femmes blanches de la majorité, disons. Donc, ça, c'est très important de souligner le fait que la définition du profilage racial devrait peut-être être étendue à des actes qui ne sont pas faits adéquatement. Voilà.
Salut, moi j'avais peut-être une nuance à faire par rapport à ce que moi vous avez, j'ai oublié votre nom, désolée, c'est juste votre nom, en fait c'est pas grave, vous le savez là.
On n'entend pas,
allô, ok. C'est ça, c'était plus une nuance par rapport au fait que vous disiez, bon, en tant que professeur, vous avez pas eu la même intervention qu'en tant que manifestant. Par contre, j'ai l'impression que ça, c'est présent dans tout, au niveau, justement, n'importe qui vient se faire parler par un policier ou par quelqu'un d'autre, ça va être accueilli différemment, t'sais. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est plus loin que juste ça. Puis, je voulais dire quelque chose par rapport à cet avant-midi aussi. J'ai l'impression qu'en fait, peut-être que les policiers doivent avoir une formation de travailleur social, tu sais, ou quelque chose pour finalement qu'ils soient sensibilisés aux causes, dans le fond, de l'itinérance, peut-être des manières de régler ça au lieu de faire de la répression. Ouais. En tout cas, c'est un commentaire comme ça. Là. Okay.
Merci.
Juste une petite note, en fait, c'est pas par rapport aux panélistes, mais l'homme qui vient juste de se présenter pour parler du recours collectif, en fait, c'est le représentant des membres. Donc, c'est des gens qui veulent... Bon, ils peuvent se référer à lui et nous, ensuite, on pourra prendre la relève. C'est notre bureau qui s'en occupe. Il y a Alexandre Popovic qui était là ce matin également, qui en fait partie. Donc, les gens, gênez-vous pas si vous avez des questions plus précises sur le recours. On est disponible.
Merci. On voit toute la, avec ces quelques interventions, toute la complexité, effectivement, du profilage qui mène parfois à des interventions systémiques et qui parfois, effectivement, oublie des interventions qui devraient être systémiques.